France Musique. Musicopolis. La contenance anglaise, musique médiévale en Angleterre. C'est en effet un petit voyage en Angleterre que vous propose Musicopolis aujourd'hui. Et pas vraiment une sortie musicologique, plutôt une excursion dans l'univers musical médiéval, sans trop se casser la tête avec la chronologie. C'est que « Moyen-Âge » est un terme si large qu'il recouvre une période qui va, en gros, de la chute de l'Empire romain à la chute de Constantinople au milieu du XVe siècle. Un bon millénaire, en somme. Je vais en profiter pour m'affranchir de toutes ces dates pour juste vous faire entendre des musiques médiévales anglaises. Puisque la Grande-Bretagne est une île, le développement de sa musique se fait un peu différemment de ce qui se passe sur le continent. Elle est parfois influencée par les autres musiques européennes, et parfois au contraire, certaines de ses caractéristiques propres se détachent et volent de leurs propres ailes. Dans ce morceau anonyme, en l'honneur de Thomas Becket, archevêque de Canterbury, on est frappé d'abord par le rythme allègre et le côté tournoyant. Allègre et tournoyant, ce n'est pas le cas de toutes les musiques médiévales anglaises. Il en est de beaucoup plus douces et suaves. Dans ce « There is no rose », chanson de Noël notée au début du XVe siècle, on entend bien ce que les contemporains ont appelé la contenance anglaise, qu'on écrit « angloise » mais qu'on prononce « anglaise ». Qu'est-ce que la contenance anglaise, vous demandez-vous? Eh bien, figurez-vous que depuis que cette expression a été employée au début des années 1440 par Simon Lefranc dans son très long poème « Le champion des dames », les érudits s'échinent à essayer de la définir. Ils concluent que c'est tout bonnement la manière anglaise de composer la musique. La musique médiévale anglaise a parfois été critiquée par les érudits du temps comme conservatrice, vieux jeu, ou parfois au contraire célébrée comme étant du dernier cri. C'est le cas de Simon Lefranc. Il nous révèle que la contenance anglaise est une nouvelle pratique qui consiste à faire frisque concordance et qui, par sa merveilleuse plaisance, rend le chant joyeux et notable. À présent, reste à traduire un peu les propos de Simon Lefranc. Qu'est-ce qu'une frisque concordance ? Concordance, c'est à peu près comme en français moderne, mais frisque est moins usité. Il a plusieurs sens assez proches : enjoué, alerte, gracieux, galant, élégant. Vous voyez à peu près. Et donc, une frisque concordance serait en quelque sorte une gracieuse consonance. Le terme « consonance » a beaucoup évolué à travers les siècles. Et justement, la musique anglaise a participé à accélérer cette évolution. Au XIIIe siècle, par exemple, sur le continent, on compose ce genre de motet qui est aussi certainement chanté en Angleterre. Le style est très différent. Style nettement plus rude que cette contenance anglaise dont je vous entretenais précédemment. Ce morceau est parfaitement consonant, bien sûr, mais assez rude néanmoins. C'est qu'ici, les intervalles entre les voix sont le plus souvent des intervalles de quarte ou de quinte ou d'octave. Les seuls intervalles réputés consonants pendant longtemps. Mais au fond, peut-être que ces histoires de quarte et de quinte, ça ne vous parle pas vraiment. Alors pour vous éclairer, je vais me référer à un épisode de la série Camelot, série inspirée justement de la légende du roi Arthur, mythique roi d'Angleterre. L'épisode est intitulé « La quinte juste ». Le père Blaise entreprend de faire chanter Bort et le roi Arthur.
Bort, une basse s'il vous plaît.
Oh.
Oui, parfait. Donc sire, vous allez chanter la même note que Bort.
Oh.
Très bien, c'est ce qu'on appelle un...
unisson.
Bravo. Maintenant, sire, vous allez passer de l'unisson à la quarte inférieure.
Oh.
Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte.
Oh.
Voilà, c'est tout ce qu'il y a.
Ici, je reprends la parole pour vous dire que le père Blaise a un goût musical plutôt conservateur. Il tolère l'unisson, la quarte et la quinte, et c'est tout. Il le dit avec beaucoup de conviction. Et il refuse absolument les tierces et les sixtes qu'il peut entendre sur les marchés et qu'il considère comme des intervalles païens. Il exècre particulièrement les tierces et les sixtes. Bort veut essayer de le convaincre avec une tierce.
Oh,
oh mais arrêtez, hein, je vais mettre un dégobillé sur la table ronde. Bort, Vous faites une pédale sur diésiré.
Voilà,
c'est bien. Et là, vous, sire...
Non, non, vous, sire. Sire, il se casse parce qu'il en a ras-le-bol.
Vous, sire, vous reprenez à la quinte juste.
Diésiré.
Voilà. Là, là, c'est propre, c'est harmonieux.
Oui, mais avec quelques fioritures, on passe très rapidement sur une petite sixte et c'est joli.
Diésiré.
Oh, mais vous êtes des malades!
Il faut plutôt voir ça comme une évolution.
Il faut interdire les intervalles non justes, c'est tout.
Sire, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, toujours des quartes, des quintes, des octaves, c'est un petit peu tendance à me gonfler, d'autant que je supporte très bien les tierces et renversements de tierces. Et j'allais même dire, un petit intervalle diminué de temps en temps.
Diminué? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur?
Bort, une pédale? Enfin, je veux dire.
Il n'y a pas de mal.
Voilà donc comment le roi Arthur lui-même conçoit la consonance. Il ne se limite pas aux intervalles justes, la quarte, la quinte et l'octave, mais il apprécie les tierces, les sixtes et autres intervalles majeurs et mineurs. Et même la quinte diminuée qu'on appelle « diabolus in musica », le diable dans la musique. Quinte diminuée, c'est le diable dans la musique, ou ici la mort qui, à minuit, joue un air de danse sur son violon. Mais avec ce violon de Saint-Saëns, je me suis un peu éloignée de notre époque médiévale. Allons, allons, revenons à notre contenance anglaise, et à ce goût des intervalles de tierces, majeures et mineures. Les deux voix que nous entendons sont la plupart du temps à un intervalle de tierces l'une de l'autre. C'est pourquoi le morceau nous paraît aussi joli, à nous qui, depuis longtemps, avons admis l'intervalle de tierces dans nos consonances. Il s'agit là d'un gimmel, dans lequel les deux voix sont parallèles et évoluent toujours à la distance d'une tierce ou d'une sixte l'une de l'autre, se réunissant seulement à la fin des phrases sur un unisson. Ce morceau a été composé à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe, au prieuré augustinien de Lantony. Gerald of Wales, un noble gallois qui a voyagé dans la région un siècle plus tôt, en a laissé une description. Dans la vallée profonde Beowayas, large d'un jet de flèches, entourée de tous côtés par de hautes montagnes, se dresse l'église Saint-Jean-Baptiste, construite en pierre taillée, à l'endroit même où se tenait autrefois l'humble chapelle de David, décorée uniquement de mousse et de lierre. Une situation vraiment bien étudiée pour la religion et plus adaptée à la discipline canonique que tous les autres monastères de l'île britannique. Ici, les moines, assis dans leur cloître, profitant de l'air frais, quand ils regardent vers l'horizon, aperçoivent le haut des montagnes, pour ainsi dire touchant le ciel, et des troupeaux de cerfs sauvages se nourrissant sur leur sommet. Un lieu véritablement propice à la contemplation, un lieu joyeux et charmant. Gerald of Wales signale que le prieuré de Lantony était un lieu joyeux et charmant. Il semble bien qu'au Moyen Âge, la Grande-Bretagne ait souvent été un lieu joyeux. Henry of Huntingdon, un historien anglo-normand du XIIe siècle, est le premier à parler de Anglia plena jocis, l'Angleterre pleine de plaisir. Si on en juge par la musique, en effet, on trouve dans cette île joie et insouciance. Tout est gai, tandis que dure l'été avec le chant des oiseaux. Pour être honnête, la suite est moins souriante. Mais le vent mugit et le mauvais temps approche à présent. Hélas, hélas, cette nuit est donc bien longue. Et moi, injustement, je pleure, je soupire et je jeûne. Mais bientôt l'été va revenir. Les chanteurs reprennent les paroles. Tout est gai tant que dure l'été. Bartholomeus Anglicus, dit aussi Bartholomew the Englishman, un érudit du XIIIe siècle, a écrit « L'Angleterre est pleine de joie et de jeu, et d'hommes souvent capables de joie et de jeu. » Il semble bien que cette Merry England, cette joyeuse Angleterre, se soit vraiment construite au XIVe et XVe siècle, avec le cycle des fêtes liturgiques qui avaient lieu tout au long de l'année, fériés, et qui étaient agrémentés de bougies, de défilés, de processions, de jeux, et les églises toutes décorées. Dans ses Contes de Canterbury, Chaucer fait référence à cette chanson très populaire du XIVe siècle qui existe dans plusieurs versions, notamment une latine, Angelus ad Virginem. Chaucer écrit à propos du clerc d'Oxford « Tout au-dessus était un gai psalterion sur lequel la nuit il jouait une mélodie si douce que toute la chambre en résonnait. Il chantait Angelus ad Virginem. Et ensuite la chanson du roi, sa voix gaie était souvent bénie. » Alors bien sûr, je vous peins là une Grande-Bretagne médiévale de rêve, où tout le monde est toujours joyeux et content. Non, évidemment, ça n'était pas le cas tout le temps. Même dans les périodes de paix, durant le Moyen Âge, pour la majorité des habitants, la vie est dure et incertaine. Et encore plus pour les paysans, qui sont à la merci des maladies et du climat. À l'aise lorsque la récolte est bonne, misérable lorsqu'elle est mauvaise. Il faut se rappeler que lors de la pandémie de peste noire du XIVe siècle, l'Angleterre a perdu quasiment la moitié de ses habitants, 1 sur 2. On imagine les douleurs incommensurables.
Sigut ad unicum.
Au Moyen Âge, le peuple de Grande-Bretagne doit travailler dur, mais il sait se réjouir tout aussi bien. Il y a durant l'année une cinquantaine de fêtes religieuses qui procurent des occasions de se réunir et de s'amuser. Quelques écrits gardent la trace de tout ce qui se passe pendant ces jours fériés. Les chroniqueurs se plaignent ces jours-là, de ceux qui flirtent à l'église ou pendant les processions, de ceux qui passent leur journée à boire dans toutes les tavernes, à plaisanter et canganer et chanter et danser. J'ai évoqué au tout début de l'émission le caractère allègre et tournoyant de certaines pièces anglaises. Et c'est avec l'une d'elles que nous allons finir, une ronde tout aussi gaie. C'est avec elle que commence l'histoire de la joyeuse musique anglaise, la Merry England, vers le XIIIe siècle. Elle se présente comme un canon où les quatre voix entrent les unes après les autres, en chantant toutes la même chose. Et en plus, on entend une petite basse, elle-même en canon, à deux voix. C'est le premier exemple dans la musique occidentale d'une musique écrite à six voix simultanées. C'est la seule qui soit demeurée parce que la plupart des sources anglaises ont disparu. Mais il est tout à fait probable que c'était l'une parmi de nombreuses autres et qu'elle est un bon exemple pour que nous imaginions l'esprit d'une fête. Summer is coming in, voici l'été, chante à tue-tête, coucou. Fais pousser les graines, fais fleurir la prairie et fais renaître le bois, chante, coucou. Une chanson anglaise anonyme du XIIIe siècle, Summer is coming in, par The Dufay Collective. Tout le programme, la réécouter, le podcast, sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Catherine Déreté pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.